Trizac. Des propos cohérents.
Des opinions différentes. Vous écoutez
du Trizac.
Alexandre Dubé a pris quelques minutes pour nous parler dans son horaire très chargé. Monsieur Dubé, bonjour.
Très bien. Le lundi, c'est pas si pire.
Non, c'est tranquille.
Mais non, je suis tout à vous autres, le lundi.
Ben, parfait, on va te prendre.
Et surtout que j'ai même pas pu aller skier ce matin à cause de l'espèce de tempête, qui est plus ou moins une tempête, c'est plus de la pluie.
Attends, faut que y a-t-il une boîte de Kleenex, j'ai su mes larmes.
Oui, vas-y. Ben oui. Grosse larme de crocodile.
Excuse-moi, je suis de la...
Oh, t'avais le nez plein, moi?
Ouais, non, je suis plein. C'est l'hiver qui me fait ça, achale-moi pas. Alors, le bilan COVID aujourd'hui.
Bon. Alors, 1189 cas, 2 décès supplémentaires, 7 hospitalisations de plus pour un total de 226, 3 personnes de plus aux soins intensifs, on est à 62. Mais là, la question qui est sur toutes les lèvres, et on aura sans doute une réponse cette semaine, c'est... Est-ce que le Doc Arruda va encore jouer le rôle du Grinch cette année ou au contraire, on va pouvoir recommander du côté de la santé publique certains assouplissements? Parce que, souviens-toi, la semaine dernière, Dr Arruda avait indiqué qu'il se donnait minimalement jusqu'à aujourd'hui pour déterminer si les mesures seraient assouplies ou pas à temps pour Noël. Mais quand on revient un peu sur le bilan des derniers jours... Si tu regardes juste le vendredi, samedi, dimanche, là, un total de 4123 cas. Et d'un autre côté, la campagne de vaccination chez les tout-petits va quand même bon train, mais les effets sont quand même difficiles à prévoir. Alors, le premier ministre François Legault avait dit espérer de son côté autoriser des rassemblements de 20 ou de 25 personnes, mais Christian Dubé ne partageait pas nécessairement son optimisme lors des derniers points de presse, alors qu'il était beaucoup plus conservateur. Il avait appelé à la prudence, d'autant plus avec l'arrivée du variant Omicron. Ça a tempéré un petit peu les espoirs, mais on sera fixé probablement au cours des prochains jours. Mais la réalité, Benoît, c'est que les familles se sont déjà tranquillement, pas vite, un peu organisées. Mmh. On a fait des appels, on a fait certains plans.
Mais pour c'est 6 un peu millions, c'est, oui, je comprends.
Ouais.
En tout cas. OK. Bref. Non, mais tu sais, je regarde ça, là. Tu sais, 4 jours de grève dans les CPE pour 6 millions de dollars de différence?
Ouais, ben, ça, écoute, c'est une semaine importante, là. C'est une semaine cruciale pour ce conflit. Aujourd'hui, là, c'est la 4e journée de grève générale illimitée pour ce qui est des éducatrices des 400 centres de la petite enfance affiliés à la CSN. Et là, ben, si rien ne bouge, les travailleuses de 140 autres CPE vont aller les rejoindre jeudi, qui ont voté aussi des mandats de grève générale illimités, parce qu'il y a 3 syndicats. Ça peut être compliqué un peu là pour les gens qui nous écoutent, là, mais il y a 3 syndicats qui négocient en même temps. La CSN, c'est celui qui regroupe le plus de CPE. OK. Bon, maintenant que ceci est dit, revenons sur cette annonce d'hier, parce que les syndicats, les partis d'opposition, les parents ont uni leur voix pour demander au premier ministre Legault de s'impliquer, d'intervenir dans ce conflit de travail. On sait que la rémunération du personnel responsable de la cuisine, de l'entretien et de l'administration en CPE, c'est au cœur des friction. Pour ce qui est des éducatrices, ça pourrait possiblement se régler. Mais vraiment, là, le nœud du problème, c'est au niveau des classes d'emploi que je t'ai nommées. Et en fin de semaine, là, la publication dans plusieurs médias d'une pleine page de pub gouvernementale qui vendent des salaires de plus de 30 piastres de l'heure, ben, ça a jeté de l'huile sur le feu. Donc, ils sont sortis hier en point de presse. Et il y a toujours le spectre de la loi spéciale. Hein? Ça avait été évoqué par le gouvernement. Est-ce qu'on veut aller là du côté du Conseil du Trésor? Je suis pas convaincu. D'ailleurs, on a confirmé à nos collègues là, du journal à Québec que l'objectif demeure d'en arriver à une entente, mais que les syndicats doivent peut-être mettre un peu d'eau dans leur vin, parce que Sonia Lebel, rappelle-toi, vendredi, avait été très, très, très critique à l'endroit des syndicats en disant, je comprends pas de la façon qu'ils négocient. Tu sais, dès que je fais, par exemple, une concession, il en demande encore plus. Mm-hmm. Et c'est à se demander aussi, tu sais, il y a 3 syndicats, je te le disais d'entrée de jeu. On est probablement plus près d'une entente avec certains syndicats que d'autres. Moi, je parlais, entre autres, en fin de semaine à la FIPEC. Je sentais qu'on était peut-être plus proche d'une entente de leur côté que, par exemple, avec la CSN. Est-ce que si le gouvernement s'entend avec un des syndicats, est-ce que ça peut avoir un effet domino pour peut-être un peu renverser la pression? J'ai bien hâte de voir, parce que pour l'instant, l'opinion publique et des parents est toujours favorable aux éducatrices.
Bon, puis il y a eu du développement là en ce qui a trait à la police de la ville de Québec.
Ouais, un policier de Québec qui est soupçonné, Benoît, de manquement criminel pour son implication dans deux interventions musclées très médiatisées au cours de la semaine dernière. Là, on a vu au moins 4 vidéos d'interventions policières musclées. Et selon nos collègues du Journal de Québec, il y a deux événements qui sont en lien là. Un premier, c'est dans le district Saint-Joseph où on a vu un policier violemment projeter un suspect contre le mur. C'était le 16 octobre dernier à l'intérieur genre d'un resto-bar. Et autre intervention, c'était sur Grande Allée où un policier avait crié à un individu: veux-tu que je te gaze, mon...
Je vais
m'épargner le sac. Il l'avait poussé là, tu sais, il l'avait poussé contre l'autopatrouille. Ce serait en lien avec ces deux événements là. Ce serait pas en lien avec l'arrestation de Pacifique et de l'autre personne qui l'accompagnait là pendant la fin de semaine à Québec. Ce ne serait pas en lien donc avec cette intervention là, selon ce qu'on peut apprendre. Alors, résultat de tout ça, ben on a communiqué au ministère de la Sécurité publique les développements, et ces deux enquêtes sont maintenant confiées entre les mains du Bureau des enquêtes indépendantes, le BEI. Ça avait choqué plusieurs citoyens, ces images qu'on a vues au cours des derniers jours, et ils mettent aussi donc en commun ce policier poussé avec force un suspect, les enquêtes concernant ces événements-là.
Mais avec force solide, là.
Ah non, écoute, oui, d'aplomb, là, c'était pas...
Il a levé le temps, là, le pauvre
gars. Non. Écoute, c'est ça, l'escouade grippe, t'as dit qu'ils ont de la poigne à Québec.
Oui, c'est ça.
Et tout dépendant comment le dossier va évoluer, on verra. Est-ce qu'il y aura des accusations? Est-ce que le directeur des poursuites criminelles et pénales va décider de déposer des accusations criminelles? Le SPVQ est pas non plus en mesure de nous dire si le policier avait été arrêté au moment où on se parle. On se rebute à dire que ça relève maintenant des mains du BEI, mais le policier fait partie là des 5 qui ont été suspendus avec solde au cours de la semaine passée. Au cours des derniers jours aussi, le chef du SPVQ, Denis Turcotte, avait promis d'aller au fond des choses et s'était dit préoccupé par ce qu'on avait pu voir dans les vidéos qui avaient fait le tour du web, en spécifiant aussi qu'elles ne disent peut-être pas tout, qu'elles ne disent qu'une seule partie de l'histoire.
Bon, et avant qu'on se quitte, Alex, ça se règle à Granby, là, les plaidoiries, ça commence aujourd'hui.
Ouais, un mot là-dessus, les plaidoiries dans le cadre là, du procès de la belle-mère de la petite fille de Granby s'amorce aujourd'hui. Ce sera donc pour les avocats de l'occasion de livrer leurs derniers arguments aux membres du jury. Le juge Louis Dionne, par la suite, va émettre ses directives finales. Ça aura lieu mercredi, et à ce moment-là, ben ça veut dire que les délibérations pourraient s'amorcer en soirée ou encore jeudi matin, et les jurés vont devoir trancher sur le sort de la femme de 38 ans. On sait qu'elle a plaidé non coupable aux accusations de meurtre et de séquestration de l'enfant survenu donc le 29 avril 2019. Un récit très difficile qu'on a entendu dans ce procès-là. Donc, ça devrait bouger au cours des prochains jours. Et je te souligne en terminant, je pense que c'est important de se rappeler que le Québec commémore aujourd'hui les 32 ans de l'attentat de Polytechnique. Il y aura commémoration 17h10 en présence de François Legault et de M. Trudeau aussi, dont l'inaction envers les armes avait été critiquée au fil des ans.
Très bien. Alexandre Dubé, merci. À mercredi.
Salut, Benoît.
Ciao.